Je voudrais d'abord porter ma réflexion sur la dimension du temps. On ne peut pas parler de l'espérance sans la rapporter à la philosophie du temps. Et je voudrais aborder cette question-là et ensuite, plus particulièrement, traiter de la thématique de l'espérance, à la fois comme vertu et comme sagesse. Le peuple chrétien est le peuple du temps, selon l'expression de Paul Tillich, un peuple qui ne se constitue pas à partir d'un territoire à défendre ou d'un patrimoine à faire fructifier, mais qui trouve son unité dans le Christ, qui se fonde sur la promesse énoncée par Dieu de nous retrouver au ciel avec lui. Il faut donc resituer par rapport à cette vision du temps la notion d'espérance. Le temps, donc, est un des aspects constitutifs de la création, comme un tissu, une trame qui permet à l'existence de s'incarner. Dans le livre de la Genèse, Dieu a créé ensemble et le monde et le temps. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Le monde dans le temps. Au paradis, la durée temporelle tendait vers l'éternité, puisqu'il n'y avait pas de mort. Aussi, le temps était-il pour l'homme une forme de conscience de l'éternité, de conscience de son éternité. L'homme connaissait Dieu dans son éternel présent. Après la chute, tout change. Le péché de l'homme introduit une rupture dans le temps. La désobéissance de l'homme provoque sa mort. Les catégories du passé, du présent, du futur apparaissent. Elles constituent la matière même de l'existence, de la biographie de chacun, comme celle de l'histoire humaine. La conscience et l'intelligence sont obscurcies. Ce qui sépare l'homme de son commencement devient le passé, et le laps de temps inéluctable qui le sépare de la fin du futur, eh bien, c'est là que se niche l'espérance. Le présent devient une sorte de conscience d'être. Ce présent est pour l'homme la catégorie du temps la moins concrète, la plus fugace, car il ne peut en éclairer l'existence qu'en fonction de ce qui fut et de ce qui peut-être sera. Ce sont des réflexions qui ont été largement portées par saint Augustin notamment. L'homme ne peut plus saisir le présent, y demeurer. Dès que l'homme s'affirme en disant « je suis », cet acte appartient déjà au passé. Le passé n'appartient pas à l'homme, il ne peut pas le modifier, et le futur, moins encore. Et son présent ne dure que l'instant fugitif de sa conscience. Ainsi, le mal a perverti le sens du temps. Pour le présent, le diable a enténébré chez l'homme le sentiment de participer à la vie éternelle de Dieu. Pour le passé, il a oblitéré sa conscience en lui faisant oublier son origine, l'action créatrice de Dieu. En oubliant son origine, l'homme a perdu son identité, ses racines. Et pour l'avenir, le mauvais a remplacé la certitude de l'immortalité par celle de la mort. Donc c'est un temps privé de Dieu. Un temps privé de Dieu qui est sans issue. Il devient réellement celui de la mort, de même que celle-ci, il est irréversible et subi. L'homme ne peut rien pour en suspendre le vol, pour le ralentir ou l'accélérer. Le déroulement du temps devient une force totalement extérieure qui agit sur lui et en lui, de la conception à la mort et contre laquelle il se trouve irrémédiablement impuissant. Le temps appartient désormais à l'univers de la contrainte, de la nécessité, de la quantité. L'homme n'est plus capable de le mesurer. La chronologie remplace la perception du rythme vital donné au cosmos par le Créateur. Et en conséquence, l'homme pécheur a perdu son rapport naturel au temps. Ce rapport au temps s'est corrompu de diverses manières. L'homme peut être tenté de vivre dans l'idéalisation, le culte du passé, la mélancolie du temps révolu. À l'inverse, l'homme peut considérer tout passé comme étant obsolète. Et cette tentation de dépasser continuellement le passé relève du culte du progrès, de l'innovation permanente, si prégnant aujourd'hui. Le progrès est alors considéré comme ce qui apportera au monde nécessairement meilleur pour le futur. L'homme se consacre à l'établissement d'un temps futur meilleur, au risque alors de sacrifier son histoire et son présent. C'est l'utopie du progrès, qui pourrait, tel un messie, assurer le bonheur comme par enchantement, et qui a enfanté ce culte, cette utopie du progrès, les idéologies révolutionnaires, et qui imprègne également notre société d'aujourd'hui, j'y reviendrai. Relevant également la tentative de dominer le temps, voulant connaître le futur par toutes les formes de les fausses spiritualités, de voyance, de divination, d'astrologie, de chamanisme, qui nous font à la fois échapper au réel ou essayer de le supprimer, ou au contraire, toutes les tentations de maîtriser le futur grâce à l'utopie technologique. Nous pouvons aussi être tentés d'oublier le temps, de ne vivre que l'instant présent, sans nous soucier de l'avenir ni du passé. Toutes ces tentatives de vaincre, de maîtriser le temps, constituent des illusions qui perdent l'être humain. Et donc par rapport à ces quelques considérations rapides que je brosse sur le rapport au temps qui est dévoyé, eh bien, on peut dire que le Christ est venu racheter le temps par son incarnation. La venue du Christ en notre chair délimite un avant et un après dans le temps. Notre calendrier grégorien, dont l'an zéro est l'année de l'incarnation de Dieu sur terre, nous le rappelle concrètement. Le christianisme introduit un temps neuf, celui du Nouveau Testament, un temps renouvelé, rénové, restauré, par rapport à un monde déchu, sans issue, qui conduit à la mort. L'incarnation, c'est la temporalisation de l'éternité, l'historisation du divin. L'éternité entre dans le temps. Dieu se donne à nous dans le temps. Il s'y révèle, il s'y livre. Le lien entre le temps et l'éternel, le lien entre créature et créateur qui avait été brisé et perdu par le péché de l'homme, est restauré. Et voilà, et je reprends une expression du cardinal Joseph Ratzinger, dans l'esprit de la liturgie, Jésus est venu lui-même le lien, est devenu lui-même le lien entre le temps et l'éternité. Le Verbe s'incarne dans le temps, il s'unit à la nature humaine temporelle, il est le lien intime entre le temps et l'éternel, entre l'homme et Dieu. L'entrée du Christ dans le temps terrestre a sanctifié de nouveau celui-ci, il n'est plus clos sur la mort, il s'ouvre sur la résurrection. Le temps, cette considération d'un temps qui est sanctifié, renouvelé par le Christ, nous amène à réfléchir sur la manière dont, et c'est là que se situe la question de l'espérance, la manière dont on habite le temps du chrétien. Pour le chrétien, la manière de recevoir, de percevoir, de représenter et d'habiter le temps se trouve profondément changé, donc à partir du Christ. Le temps est alors assumé par la propre temporalité de Jésus et sa vie trinitaire, un temps tourné vers le Père, transformé par le Christ, habité par son Esprit. L'incarnation, le Christ, vient habiter le temps, nous réconcilier avec le passé, le présent et le futur. Le temps chrétien est ainsi marqué par un équilibre entre ces trois dimensions, mémoire, présence, espérance. Et parler de l'espérance, c'est rapporter cette vertu théologale aux autres composantes du temps. D'abord, le temps est un mémorial. L'homme est blessé dans sa mémoire, individuellement et collectivement. La société, en quête de permanence et de racines, peut être tenté de se passionner pour son passé dans une forme de culte qui plonge l'homme dans la mélancolie d'une histoire idéalisée. Cette tentation peut être forte aujourd'hui dans un contexte de perte de conscience historique et de crise de la transmission. Ensuite, il y a l'idée de progrès qui s'est fortement développée depuis plusieurs siècles, qui induit l'idée d'un dépassement disruptif continuel du passé. On sacralise le nouveau, on privilégie la mode, on dévalue le modèle, on refuse l'archétype, on oublie l'antécédence. La mémoire devient non plus une faculté du vivant, mais aussi, et c'est un des aspects du paradigme technologique, la mémoire devient une puissance de stockage, notamment avec l'intelligence artificielle. La mémoire qui n'est plus que technologique côtoie l'inculture historique de beaucoup de nos contemporains. À la différence de ce rapport blessé que je viens d'évoquer par rapport à notre passé, le christianisme nous fixe un événement passé dont l'Église n'a jamais fini d'épuiser le sens. Le christianisme fait mémoire. Alors que le temps, au lieu d'amortir les erreurs du passé, les fait souvent résonner, la mémoire chrétienne est habitée par la miséricorde. Celle-ci nous libère de la répétition, de l'enfermement circulaire, dépressif d'un passé que l'on ne parvient pas à digérer, qui nous rattrape constamment. La foi chrétienne fait mémoire. Elle nous ramène à l'origine du salut, à la victoire du Christ sur la mort. Notre foi repose sur cet événement historique que l'Église rappelle, célèbre, actualise. L'espérance, c'est cette tension du temps vers la fin. Ne plus savoir d'où l'on vient, mais aussi ne pas savoir d'où l'on va, caractérise la crise d'identité que chacun peut vivre et que vit aussi notre société. Nous avons perdu le sens des choses qui durent dans le temps. C'est l'ère des fast-food, du speed dating, du haut débit Internet, l'habitude de faire plusieurs choses en même temps, ce sont autant de symptômes du rythme pressé des innovations, de la diffusion de la mode. Tout va très vite, plus vite. Tout nécessite une flexibilité accrue, changement de métier, de partenaire, d'orientation politique, dans une frénésie croissante qui modifie le rapport au temps. Cet emballement à l'échelle individuelle provoque des pathologies, du stress, de l'hyperactivité, ou au contraire de la dépression ou du burn-out. Cet emballement s'observe aussi sur les terrains économiques, sociaux, politiques, médiatiques, politiques d'urgence, discours de crise. L'engagement sur le long terme se trouve dévalorisé, aussi bien dans la sphère de la consommation, où les produits sont programmés pour expirer le plus vite possible, c'est l'obsolescence programmée, afin toujours de pousser à consommer de nouveau, mais aussi dans la sphère privée, où par exemple les mariages, les cohabitations se soldent souvent par un divorce, une séparation. La peur de se tromper, la peur de se donner, empêche de s'inscrire dans la durée. L'homme se laisse mener au gré de ses impatiences, otage de ses appétits successifs, de ses plaisirs immédiats. Hermund Rosa définissait l'accélération du temps comme l'essence de la modernité, tout autant que la rationalisation, l'individualisation, la domestication de l'homme et de la nature. Cette accélération du temps pétrifie le temps. Elle met en péril la conduite de nos existences. Elle nous coupe du réel, de la nature, où l'on apprenait la servitude du temps, son engrenage, son apprivoisement. Aujourd'hui, l'instant d'un clic informatique, nos caprices d'achat ou le contact social sont autant de postures qui brise ce rapport à la durée. Nous ne connaissons plus l'épaisseur de la temporalité, la montée subtile du désir, le mérite de la conquête. Nous ne savourons plus la bonne lenteur, la lenteur du temps nécessaire à la germination. Et nous payons lourdement les conséquences de cette séparation avec le sens de la durée. La fuite en avant dans le consumérisme ou dans l'imaginaire nous prive d'espérance. L'être humain ne peut se satisfaire de l'illusion des rêves ou de l'assouvissement de ses besoins primaires et immédiats. Sans espérance, lorsque la foi dans le progrès a remplacé la foi en Dieu, les hommes cherchent alors le salut dans l'histoire ou dans des biens terrestres, comme l'expliquait, je cite encore, Cardinal Ratzinger dans le sel de la terre. Les utopies philosophiques où les faux messianismes politiques font miroiter à l'homme un paradis temporel que l'homme ne peut atteindre, que l'homme peut atteindre par ses propres et ses seules forces. La société de consommation et son impuissance à donner des raisons de vivre orientent vers des paradis artificiels parce que terrestres. La vie est une course au bonheur, écrivait Stendhal. Or l'homme a le redoutable pouvoir de mettre son bonheur là où il lui plaît de le mettre. Il peut tragiquement choisir de mettre son amour et son bonheur dans des biens terrestres limités qui ne comblent pas son cœur mais qui lui sont accessibles immédiatement, sans effort. Pourtant, et je cite là saint Thomas d'Aquin, « Rien d'autre ne peut satisfaire le cœur de l'homme que le bien universel, bien qui ne se trouve réalisé en aucune créature, mais seulement en Dieu. » Et précisément, le mystère de l'ascension nous manifeste cette promesse, cette tension vers un futur où Dieu nous espère. En s'élevant aux cieux, Jésus rappelle que la vocation de l'homme est surnaturelle, que l'homme a été créé par Dieu pour rejoindre les cieux, vivre de la vie divine, et que nous avons oublié à cause du péché. Cette vocation surnaturelle de l'homme explique pourquoi l'accomplissement de ses besoins d'animal social et politique le laisse insatisfait. Vous nous avez fait pour vous, ô mon Dieu, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en vous, s'exclamait saint Augustin. Le temps chrétien est par conséquent orienté, finalisé, tendu vers un définitif, vers une aspiration de notre cœur qui ne peut se réaliser parfaitement que dans les fins dernières et non pleinement sur terre. Le mémorial de la Pâque du Seigneur tend le croyant vers le futur dans l'attente de sa venue glorieuse. Notre foi est non seulement un héritage, comme nous l'avons vu, mais aussi une promesse, promesse du retour du Christ à la fin des temps, promesse de la rencontre et de l'union avec Dieu dans le ciel. Ainsi, le temps chrétien oriente notre vie vers sa fin véritable, fin que je pourrais écrire F-I-M ou F-I-N, la vie éternelle après la mort. L'Église ne peut pas échapper au temps dans son existence d'ici-bas, mais elle sait qu'elle est en devenir. Par la révélation, l'Église sait et énonce quelle est cette fin de l'histoire. Mais notre rapport au futur étant aussi blessé, nous sommes souvent timorés face à cette fin. Nous n'aimons guère penser à notre mort et nous confronter aux fins dernières, au dernier avènement de Jésus qui viendra dans la gloire juger les vivants et les morts, comme nous le confessons. Et pourtant, cette finitude révèle notre identité, l'union éternelle avec Dieu. Par la vertu d'espérance, nous attendons de Dieu, avec une ferme confiance, cette vie éternelle et les grâces nécessaires pour y parvenir. Tout notre être désire, attend, non pas simplement les biens que Dieu peut me procurer, mais Dieu lui-même. C'est lui que je cherche. L'espérance, comme vertu théologale, nous lie à Dieu lui-même directement. C'est une vertu surnaturelle. Dieu lui-même nous donne les moyens de l'atteindre. En ce sens, l'espérance se distingue de l'espoir, qui cherche à atteindre, lui, un certain bien terrestre. L'espérance ne dépend donc pas de nos succès, de nos échecs. Sachant que Dieu cherche et attend l'homme, la vertu d'espérance nous certifie qu'il nous donne les moyens de l'atteindre. Comme le disait Fénelon, espérer, c'est attendre Dieu de Dieu. Dieu nous donne les moyens d'aller à lui. La grâce de l'espérance actue notre volonté de saisir Dieu parce que grâce à lui et par lui, nous en sommes capables. Il nous faut pour cela le vouloir, l'espérance est fille de la volonté. Nous ne savons pas quelle sera la durée de l'attente. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, déclarait Jésus aux apôtres lorsqu'il quittait la terre pour le ciel. Ce temps d'attente tendu vers le futur, c'est le présent d'Église. Jésus-Christ vient habiter cette attente. Il vient fortifier notre espérance. L'éternité que nous attendons est déjà commencée. Notre âme désire, attend les noces de l'agneau avec elle. comme l'annonce le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, Maranatha, viens Seigneur Jésus, que ton règne vienne. C'est cela notre espérance. Le Christ, Alpha et Oméga, est la fin de tout homme, puisque toute l'humanité s'accomplit en lui. Ici-bas, nous n'avons pas d'autre but que de le rejoindre. Pour un chrétien, la vie a un terme et elle nous convoque à préparer et à vivre dès aujourd'hui de cette éternité. La vie éternelle sera une récompense, même si elle se reçoit en même temps comme un don absolument gratuit et miséricordieux du Seigneur. L'homme ne peut l'accueillir par son seul labeur. Pourtant, ce temps sur terre, ce passage éphémère, engage l'éternité pour chaque être humain. Ici se joue, se noue notre éternité. Ainsi, la promesse du Christ n'est pas seulement une annonce prophétique, elle devient pour nous une tâche, un envoi, une mission à accomplir. Nous sommes invités à investir le présent d'espérance. Si la foi nous rapporte au passé, si l'espérance nous situe vis-à-vis de l'avenir, c'est en vue, effectivement, de mieux habiter le présent, de l'habiter par la charité. Ce présent n'a de sens que par rapport à l'héritage que Dieu nous offre dans le Christ, et pas aussi par rapport à la promesse de salut. Toute l'histoire temporelle de l'Église est orientée vers cette promesse, vers cette fin dernière qu'est l'entrée de l'homme dans l'éternité de Dieu. Ainsi, le temps chrétien n'est pas un éternel recommencement, il n'est pas un cycle sans fin, mais une tension du temps vers un terme, vers un accomplissement d'histoire humaine. Chacun est invité à faire sienne cette tension. Tout notre temps, tous nos actes, toute notre vie sont orientés vers cette fin. Notre temps devient une occasion d'éternité. C'est dire que notre éternité se joue à chaque instant, par chacun de nos actes. Chaque minute compte. Notre temps est compté comme chacun de nos cheveux, comme le rappelle l'évangile de Luc. Ainsi conçu, le temps présent n'est plus neutre. Tout moment peut être choix de salut ou de perdition. La finalité de notre vie terrestre est pour chacun de rejoindre Dieu et d'y conduire les autres. Notre présent consiste, comme le disait saint Ignace de Loyola, à désirer et choisir uniquement ce qui nous conduit plus sûrement à la fin pour laquelle nous sommes créés. Cela commence par exemple par ne pas perdre notre présent donné gratuitement par Dieu en distraction de toutes sortes. Comment pouvons-nous finaliser nos journées et notre vie dans ce désir du ciel ? Alors que nous vivons dans le paradigme de l'immédiateté, comme le rappelait Gilles Lipovski sous l'emprise de l'éphémère. Cette tyrannie de l'immédiateté qui caractérise notre société a deux conséquences. Tout d'abord, nous ne voyons plus à long terme la finalité de notre vie. Nous avons du mal à vivre en pensant qu'un jour nous allons mourir, que le temps a une fin, qu'un jour nous serons jugés d'un jugement de miséricorde, et d'autre part, nous avons du mal à prendre les bons et justes moyens pour parvenir à cette vie bienheureuse, moyens qui demandent patience et persévérance. Le temps présent constitue pourtant, pour chacun de nous, un temps de grâce donné par Dieu pour nous parfaire. L'homme n'a pas reçu d'emblée sa perfection. Il a besoin de temps pour croître vers la perfection. C'est ce que disait saint Irénée de Lyon dans Adversus Ceresès. Dieu a modelé l'homme en vue d'une croissance, d'une fécondité. Nous avons besoin de durer pour produire du fruit, pour déployer et faire croître notre vie spirituelle. Le chapitre 13 de l'évangile de saint Matthieu compare notre vie spirituelle à une graine semée dans la bonne terre ou dans un sol pierreux ou plein de ronces. Dans cette vie ici-bas, comme le dit Gustave Thibon dans Équilibre et Harmonie, chaque journée, chaque année est comme un jardin dont la culture nous est confiée. Ne pouvant en élargir la surface, notre tâche est de choisir les bonnes semences et de sarcler les herbes parasites. afin de porter du fruit au centuple. Notre monde technique, urbanisé, nous fait perdre conscience de ce rythme lent et persévérant de la croissance des plantes et des êtres vivants. Contempler la patiente et lente croissance du vivant, celle des personnes et celle de la nature, nous invite à deux choses. D'abord, à mourir à nous-mêmes. Il faut choisir, rester fleur et se faner, ou mourir et devenir fruit. Comme le grain de blé qui tombe en terre, si nous ne mourons pas à nous-mêmes, nous ne porterons pas de fruits. Ensuite, contempler la patiente et lente croissance du vivant nous convie à la fidélité, à la persévérance dans notre vie spirituelle. Dieu travaille avec le temps. Il faut prier sans cesse, nous rappelle l'évangile de Luc. Tel est aussi le conseil de Paul aux Thessaloniciens. Sans cesse veut dire, il faut prier maintenant, à chaque moment. Notre vie spirituelle se construit ainsi dans la durée du présent, dans la fidélité quotidienne, dans les petites choses qui sont parfois héroïques. C'est la petite voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la fidélité dans les choses ordinaires qui ne se voient pas, dans la fidélité du quotidien, dans l'épaisseur du quotidien. Cette persévérance constitue l'épaisseur du présent de la vie chrétienne. Des efforts sont à faire à chaque minute et à recommencer. Je commence chaque jour, confiait Saint Athanase et Saint Grégoire de Nice d'ajouter « Vivez comme si vous mouriez chaque jour ». C'est Bède le Vénérable qui disait « La vie chrétienne, c'est d'aller de commencement en commencement ». Les personnes qui ont vécu une conversion fulgurante en témoignent avec éloquence. Le moment de la conversion ne suffit pas, c'est ensuite un patient, rude combat quotidien, une fidélité à renouveler chaque jour au Seigneur par nos actes et par la prière. Comme l'herbe, il ne sert à rien de tirer dessus pour qu'elle pousse, grandir en sainteté et en humanité, consomme du temps, requiert fidélité et persévérance. Comme Jésus qui a passé 30 années à Nazareth, sanctifiant l'écoulement ordinaire du temps et la fidélité quotidienne aux devoirs d'État. Thérèse d'Avila ajoutait « qui a l'instant présent à Dieu ». Le présent du chrétien consiste à confirmer, à conformer notre vie à ce que nous croyons et à ce que nous espérons. Le présent est le temps de la troisième vertu théologale, la charité, qui trace un pont entre le ciel et la terre, qui relie Dieu et les hommes. Par rapport à cette vertu d'espérance, je soulignerai deux aspects qui me semblent importants. On pourrait insister aussi sur toutes les questions environnementales et les problématiques qui touchent aujourd'hui à l'écologie. Mais je soulignerai, dans le contexte de notre époque, deux désespérances qu'il nous faut aborder et affronter. D'abord, celle des ruptures anthropologiques. Ces ruptures anthropologiques successives ont parsemé l'histoire de l'humanité. La révolution copernicienne, où la Terre ne serait plus le centre de la création, la révolution darwinienne, où l'homme n'est que le produit d'une évolution, la révolution freudienne, l'homme ne gouverne plus ses pensées mais son inconscient, et enfin la révolution technologique qui consomme avec la mort des grandes utopies politiques et les grandes idéologies. La technologie succède à l'idéologie, les robots vont faire mieux que l'homme. C'est le fantasme et surtout la tentation de la toute-puissance qui refuse la durée et la limite. Le règne du perfectionnisme, le mirage d'un monde pur, sans faille, le refus de la fragilité. La tentation de l'indifférenciation avec l'atomisation des individus, le refus de l'altérité. On en arrive au rêve prométhéen de l'homme augmenté, décuplé par la technique, fabriqué, jusqu'à l'instrumentalisation de l'humain. Dans sa dernière encyclique Fratelli Tutti, le pape a fait l'inventaire de nos échecs contemporains, de nos impasses. je le cite, des rêves qui se brisent en morceaux, des conflits anachroniques considérés comme dépassés qui s'enflamment, des nationalismes étriqués, exacerbés, pleins de ressentiments et agressifs qui réapparaissent avec des nouvelles formes d'égoïsme et de perte du sens social. Il y a une fragmentation anthropologique qui nous fait perdre le sens de l'incarnation. Le corps n'a jamais été aussi entretenu, adulé. En témoigne l'engouement pour le sport, l'obsession des canons de beauté, la libéralisation de la sexualité. Mais cette crise du corps se traduit de multiples façons. Les personnes handicapées et malades, marginalisées, l'euthanasie qui s'impose de plus en plus et nous fait miroiter une abolition de la souffrance du corps confronté à sa limite, l'avortement banalisé, le ventre de la mère qui porte un autre corps avec son ADN propre et son identité spécifique qui est oubliée, la PMA généralisée, la GPA qui reflète à quel point la filiation n'a plus de lien avec la sexualité et avec la chair. L'homme est tenté de se désincarner avec le développement d'un monde virtuel et technologique qui l'encourage à s'affranchir de toute limite et de ses racines. C'est le premier point, la crise anthropologique. Deuxième enjeu au niveau de l'espérance, l'enjeu de crise sociale. Le corps, on parle du corps, de crise du corps charnel, elle se prolonge par la crise du corps social. Le corps social était appelé corps justement parce que chaque personne, chaque famille, chaque institution, entreprise en constituait les différents organes avec leurs fonctions propres, leur richesse unique, mais qui étaient liés intimement, nécessairement à tous les autres dans un fonctionnement harmonieux. Le corps social n'est plus aujourd'hui ce corps uni, mais plutôt un agglomérat d'individus reclus sur eux-mêmes, émiettés, juxtaposés. On parle de dislocation du corps social, qui se fait cruellement sentir à l'occasion, en particulier de l'épidémie du coronavirus, l'éloignement physique des personnes au sein d'une même famille, la distanciation requise pour éviter la dissémination de la maladie, ont fait cruellement ressentir le besoin irrépressible qui sommeille en chacun d'entretenir des relations, de créer du lien. Comment prendre en compte l'autre? Comment faire un apprentissage de l'altérité? Comment déployer une dynamique de la sollicitude, de la conscience, de notre interdépendance dans une société fragmentée, atomisée? Le fondement de la société est en effet désormais l'individu autonormé, chacun existant pour lui-même. Pour expliquer que les individus se lient entre eux, alors on a recours à la notion de contrat social. La nature humaine ne se fonde plus ontologiquement sur un lien naturel, mais sur un lien social, à partir d'un contrat juridique. Le corps social se disloque en autant d'individus impersonnels qui revendiquent tous une égalité de droits en vue de leur émancipation. On assiste donc à une crise du collectif et de perte du sens du bien commun. C'est l'un des grands enjeux aujourd'hui du débat politique. Le plaisir, la satisfaction de chaque individu constitue la finalité de l'action politique et guide les choix de l'économie. Cette crise économique, identitaire, culturelle, anthropologique, j'ai souligné ces deux aspects sur le plan personnel et puis de l'anthropologie sociale, cette crise du réchauffement climatique, cette crise sanitaire que l'on a traversée, le monde que nous connaissons semble de plus en plus confronté à ses propres limites. Chacun d'entre nous, à la fois malade et médecin, tente d'ausculter ce grand cadavre mort du monde moderne, selon l'expression de Peggy, qui lutte pour effectuer sa mue. Notre diagnostic pourrait virer au catastrophisme, aider des prophètes modernes du déclin qui prospèrent sur les réseaux sociaux et qui nous convainquent que le monde collapse inexorablement, qui nous parlent de fin du monde, de déclin civilisationnel, environnemental. Jamais, semble-t-il, n'a-t-on eu aussi peur de mourir. Nous avons pu prendre conscience de nos limites à l'occasion de la crise du Covid, qui a mis à mal notre système de santé, mais aussi a gravement impacté notre économie, bouleversé notre quotidien. Ces crises nous convoquent à l'humilité, nous ramènent au réel, par un retour obligé aux fondamentaux de l'existence, à la densité mystérieuse et tragique de notre condition humaine, pour assurer des conversions dans nos comportements et nos modes de vie. Il s'agit de sortir de cette tentation qui se profile de nous déporter vers le désespoir, vers l'à quoi bon, vers la paralysie, ou de nous rapatrier vers le court terme, vers un activisme terrestre qui se cantonnerait à proposer des simples mesures techniques et sociales. Face à la morosité, tout peut nous paraître sans espoir. Le monde s'écroule, Dieu semble absent, alors que doit faire le chrétien ? Fuir le monde, où Dieu l'a placé comme gardien, s'en échapper en s'illusionnant ? Comment faire l'impasse de notre incarnation dans ce monde qui constitue notre cadre de vie, notre écosystème, notre socle, en même temps notre limite et que Dieu nous a confié ? Nous voilà situés, hic et nunc, ici et maintenant, positionnés là où tout paraît s'effondrer. Et comment se placer en tant que chrétien entre d'une part la cohorte des nihilistes et les désespérés qui n'attendent rien de l'avenir, et d'autre part le camp des messianismes terrestres qui cultivent l'idée de progrès en promettant un monde meilleur pour demain ? Notre monde se dirige-t-il vers le néant ou vers le meilleur des mondes ? Et si l'effondrement du monde pouvait dévoiler l'actualité et la pertinence de l'espérance chrétienne ? Chantal Delsol analyse ainsi dans Le crépuscule de l'universel, je la cite, « La postmodernité engendre des sociétés aux citoyens rassasiés de nourriture, mais affamés de connivence et donc de sens. » Des sociétés moins guettées par la pauvreté que par le désespoir et le dégoût de vivre. Comme chaque journée rythmée par la succession solaire de l'aurore après le crépuscule, comme la nature à chaque printemps, l'histoire nous enseigne que les crises sont souvent surmontables. Les civilisations sont mortelles, mais elles peuvent aussi renaître. De nombreux réveils spirituels ont traversé l'histoire de l'Église. L'histoire du monachisme au Moyen-Âge, le développement des ordres mendiants, la contre-réforme catholique du Concile de Trente, plus récemment l'épopée des congrégations missionnaires au XIXe, tous ces grands renouveaux spirituels ont été les points de départ d'une résilience, d'une transformation de l'ensemble de la société. La crise dans laquelle se trouve plongé notre monde correspond à une perte de sens, de repères, de mémoire, de culture. Mais toute crise peut faire ressortir la nécessité d'une résurgence, de retrouver une espérance à partir du socle de la foi. Pour nous, le tombeau du Christ est un berceau. L'homme ne peut pas se passer de la question de Dieu. Il ne peut pas se priver d'intériorité, de transcendance, se penser lui-même. Tous les régimes politiques oppressifs à travers l'histoire qui ont banni la place des religions, sont morts avant elles. Ils ont voulu transférer les attributs de Dieu à la sphère publique, ce qui a engendré le pire. Le culte de l'être suprême à la Révolution française, le nazisme et son idée de sacrifice sanglant, le communisme qui s'est emparé des symboles religieux et toutes les grandes utopies politiques. Tout cela a débouché sur l'enfer totalitaire. Tous ces messianismes subsistent sous d'autres formes, mais le détournement des valeurs chrétiennes rend illisible le constat de l'effondrement de notre monde occidental. En apparence, notre monde, qui est pavé de bonnes intentions et de louables valeurs, ne cherche-t-il pas la fraternité universelle, une certaine forme d'amour de l'autre, de paix définitive ? Tout cela ressemble à s'y méprendre aux valeurs de l'Évangile. Pourtant, ces repères sont sans fondement. Comme le disait Chesterton, les valeurs chrétiennes devenues folles ont été inversées. Comment penser une fraternité universelle sans paternité commune, sans Père du ciel, une paix sans salut, une réconciliation dans une fraternité sans une réconciliation avec Dieu ? Néanmoins, il s'agit souvent à travers ces quêtes de valeur, de découvrir, de discerner à travers elles des valeurs, des principes chrétiens déroutés qui s'originent en l'homme et qui viennent de Dieu. La philanthropie a pris la place de la charité, le consentement, celle de l'espérance, le contentement, celle de l'espérance, la science se substitue à la foi. Ces valeurs chrétiennes ont été vidées de leur substance, de leur finalité. Depuis 2000 ans, l'Église a survécu aux pseudo-devins, aux prophètes de la fin du christianisme, ou de sa sortie vers d'autres religions, aux idéologues qui voulaient l'éradiquer. L'Église a traversé les tourments de l'histoire, subsisté aux divisions internes, et malgré l'infidélité de ses membres à l'Évangile, elle continue de porter le témoignage du Christ aux nouvelles générations. Le christianisme est l'avenir de l'humanité. Le christianisme est devant nous, car la foi demeure l'inconscient innommé de nos sociétés occidentales qui sont redevables de ses racines. L'expulsion, la marginalisation du christianisme accélérée par le discrédit médiatique qu'elle subit dans les sociétés postmodernes a fait perdre aux nations leur soubassement spirituel, mais aussi une enveloppe anthropologique et sociale qui garantissait une homogénéité traversant les siècles. De notre monde post-chrétien monte, sans que nous l'osions toujours l'entendre, un besoin de christianisme, un christianisme attestataire, confessant. Mais quel va être le point de départ du réveil du christianisme? Quelle réponse salutaire peut-il apporter face aux ébranlements du monde contemporain, qui, en se séparant de Dieu, se coupe de sa propre finalité et de sa propre humanité? Comment l'effondrement du monde peut-il dévoiler notre espérance chrétienne? Sous ce voile du pessimisme, une espérance pourrait-elle poindre? Pour n'espérer qu'en Dieu, écrivait Gustave Thibon, il faut avoir désespéré de tout ce qui n'est pas Dieu. Et si finalement ces théories de l'effondrement du monde qui nous conduisent à désespérer de tout ce qui est humain et naturel nous amenaient à ne fonder notre espérance qu'en Dieu? Si paradoxal que cela paraisse, l'espérance surnaturelle consiste surtout à ne pas songer à l'avenir, car l'avenir est la patrie de l'irréel, de l'imaginaire. Le bien que nous attendons de Dieu réside dans l'éternel, non dans l'avenir. Et le présent seul donne accès à l'éternel. Se réfugier dans l'avenir, c'est désespérer du présent. C'est préférer un mensonge à la réalité que Dieu nous envoie goutte à goutte, chaque jour. Dieu tient ses promesses en même temps qu'il les fait. Hodie mecum eris in paradiso. Ce jour même, tu seras en paradis. Telle est la devise de l'espérance surnaturelle. La fausse espérance braquée uniquement sur l'avenir se repaît de promesses en tant que promesses. Demain, on rasera gratis. Telle est la grande différence entre l'espérance et l'espoir. La vertu d'espérance nous tend vers l'avenir, vers un bien suprême que Dieu nous a promis. Elle nous certifie que Dieu nous donne dès aujourd'hui sa grâce, ses biens, les moyens de l'atteindre. Aujourd'hui et non pas demain. Lui, l'espoir ne fait qu'attendre. Le pessimisme pour l'avenir écologique, socio-économique, consiste toujours à se braquer sur l'avenir. De même pour l'optimisme. Tous les messianismes promettent monts et merveilles qui se focalisent sur l'avenir à partir des promesses qui n'engagent qu'eux-mêmes et ceux qui les écoutent. Le Christ ne fait pas de telles promesses. Notre espérance chrétienne réside dans la certitude que Dieu ne repart jamais de zéro pour faire autre chose. L'histoire du déluge, de la tour de Babel, récit de chaos, atteste qu'à cause d'un seul homme juste, le projet de Dieu est relancé. Le Christ se chargera lui-même d'assurer cette justice. L'Église porte une dimension prophétique vis-à-vis des défaites du monde qui s'exonère de Dieu. Sa mission est de réveiller les cœurs, les consciences. Le prophète que nous devons être ne croit pas au destin inéluctable, mais à une difficile liberté à reconquérir sans cesse sur nos idoles. L'Église assume une posture de résistance, mais aussi d'annonce face à toutes les dictatures morales, médiatiques, étatiques, qui se fondent sur des peurs, des résignations ou l'absence de consentement. Alors que la collapsologie nous engage vers un futur incertain, en raison de son fatalisme, La foi nous confirme dans une espérance réelle qui a Dieu pour horizon. Prédire les crises à venir nous sans prendre la mesure des dynamismes humains et spirituels caractérise ces courants de pensée. Ces théories sur notre futur oublient de discerner la capacité de résilience des peuples, le génie propre de l'homme à rebondir, à inventer de nouvelles structures, à se dépasser. On oublie l'action de l'Esprit Saint, de la grâce divine pour rebondir à partir d'une vraie conversion. En lisant le dernier livre de la Bible, nous pourrions en effet projeter une vision pessimiste de l'avenir, de la fin des temps, liée inéluctablement à la destruction du monde physique que nous connaissons, c'est l'Apocalypse. Interprétation qui semble aller dans le sens des théories de l'effondrement. Vision sombre de l'avenir terrestre qui place les chrétiens dans une position de faiblesse face aux réformateurs sociaux, promoteurs de progrès ou de transhumanisme, qui promettent un monde meilleur dès ici-bas. Relire le livre de l'Apocalypse nous place dans l'optique des premiers chrétiens. Bien souvent persécutés, ils attendaient la fin avec impatience et non pessimisme. La fin, c'est-à-dire la venue glorieuse du Christ sur une terre renouvelée, libérée du péché, où il essuiera toutes les larmes et la mort ne sera plus. Le terme « apocalypse » signifie originairement en grec « retourner », comme la charrue retourne le sol, et par extension, mettre sans dessus dessous, bouleverser. Lorsque Jonas parcourt Ninive pendant 40 jours, il ne dit pas « encore 40 jours et Ninive sera détruite », mais « encore 40 jours et Ninive sera bouleversée ». Les gens de Ninive crurent alors en Dieu, ils furent bouleversés, c'est-à-dire ils se convertirent. Ils ont su voir dans la catastrophe un signe de Dieu, un appel à revenir à lui. Ils se sont laissés bouleverser. Les récits bibliques des châtiments, de catastrophes comme le déluge ou la tour de Babel sont des récits de salut et la croix en est l'exemple éminent. Les catastrophes peuvent être interprétées non comme des destructions mais comme des bouleversements pour voir une occasion de salut, de conversion. Ainsi, au cœur de la catastrophe pointe une véritable espérance. De quelle manière tenir nos yeux fixés sur le salut définitif? Cet horizon si lointain lorsque le monde nous happe dans sa spirale dépressive et destructrice. C'était Peggy qui disait à propos de cette petite vertu d'espérance, la petite fille espérance, il disait « l'espérance ne va pas de soi ». Désespérer est une pente facile, d'autant plus que le Christ ne nous a présenté aucun calendrier ni échéance. Sentinelle de l'aurore, le chrétien se fait veilleur, jusqu'au jour où le corps mystique sortira définitivement du tombeau. L'espérance ne consiste pas en une attente passive, indéfinie. Moteur de la vie spirituelle, elle pousse les hommes à agir, chacun à son échelle, pour préserver le monde, lui annoncer l'évangile et le transformer en vue de l'avènement du royaume. L'effondrement du monde nous appelle à participer activement à la vie du monde et de l'Église, qui est le moyen du salut. Vie de louange, de communion fraternelle, de service, de charité. L'Église est mobilisée dans cette attente de l'achèvement du monde, de l'histoire du salut, au-delà des épreuves et des péripéties de l'histoire. Un deuxième point, je termine dans 3 minutes pour assurer le timing. La place dans cette dimension de l'espérance de la communion fraternelle. La fragmentation du corps social que nous avons évoqué dévoile aussi l'espérance d'une communion fraternelle entre les hommes unis dans et par le Christ. Grâce à la liturgie notamment, source et expression de la communion ecclésiale, Dieu nous unit. En particulier dans l'Église, toutes les œuvres et apostolats, tous les services de charité et de fraternité trouvent leur sens et leur unité dans et par l'Eucharistie. Le corps du Christ, nous faisons participer tous à la même vie, nous arrache à notre individualité fermée. Il nourrit notre espérance, il nourrit notre appartenance commune à Dieu. La communion au Christ nous associe les uns aux autres en vue de la même construction du royaume, elle nous rend frères et sœurs. Cette incorporation est le fruit du sacrifice du Christ. Le Christ répare la fragmentation du péché originel et il réunit en son corps mystique l'humanité séparée et dispersée. C'est le geste d'ailleurs de la fraction du pain hein, qui récapitule cette fracturation liée au péché. Dans le livre de l'Apocalypse, tous adorent devant le trône dans une communion des saints autour des 24 anciens et des 4 animaux. L'adoration agrège, rassemble tout autour de celui qui est notre tout. Convergence des regards, volonté commune de regarder dans la même direction, de creuser un amour et un désir commun. Je cite le pape François, « Si nous savons nous achenouiller devant Jésus, nous vaincrons la tentation de continuer à marcher chacun de son côté. Adorer, c'est nous redécouvrir frères et sœurs devant le mystère de l'amour qui surmonte toute distance, c'est puiser le bien à sa source, c'est trouver dans le Dieu proche le courage d'approcher les autres. » Communion fraternelle qui s'accomplit dans la liturgie. La vertu de l'Eucharistie est de transformer une assemblée en communauté sacramentelle. L'Eucharistie fait l'Église. Le corps sacramentel fait advenir le corps ecclésial. Cette appropriation à la fois personnelle et communautaire de l'œuvre du salut réalisée par le Christ donne à notre existence, et j'emploie un mot de Benoît XVI, une forme eucharistique. Le salut consiste en une réunification, une réconciliation. La réconciliation consiste à réparer la rupture avec l'autre pour rétablir un lien fondé sur le vrai et le bien. Alors que le péché a fragmenté l'homme, aussi bien avec lui-même qu'avec Dieu, qu'avec les autres. Le tombeau du Christ est aujourd'hui l'autel dans nos églises. Un tombeau, je le disais, qui est devenu berceau. Le chaos que traverse notre monde dévoile qu'une autre vie nous attend, venue du ciel, mais qui commence déjà ici-bas, quoique imparfaitement, puisque le péché et la mort ne sont pas encore arrachés de notre monde. Face à cette espérance théologale, le chrétien est en un sens pessimiste. Il ne voit pas son salut dans les biens terrestres, dans les promesses humaines, les prophéties politiques, les avancées scientifiques, les transformations sociétales, bien que tout cela participe de l'avènement du royaume. Réaliste et parfois pessimiste, le croyant n'est pourtant jamais désespéré. Le sommet de la sainteté réside pour le chrétien dans le refus du désespoir. Pour refuser le désespoir, qui est la plus grande arme du diable, il faut d'abord l'éprouver, le pâtir à fond. Éprouver le désespoir en ressentant peut-être d'une certaine manière l'effondrement du monde pour pouvoir le dépasser dans un acte d'amour aveugle, inconditionnel. Consentir parfois à se perdre pour accueillir l'amour qui nous attend. Merci de votre patience.